yen est encore plus ferme puisque l'euro perd 0,50% à 129 yens 26. Je vous rappelle le CAC 40 plus 0,43% maintenant à 3268 points. C'était Antoine Verlin, la Bourse de Paris pour France Inter.
La Bourse en temps réel, tous les cours, les indices et les marchés sur votre Minitel 3615 France Inter, rubrique Bourse, 35 centimes d'euros la minute ou sur votre téléphone au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute.
Et on termine avec les courses cet après-midi à Laval dans la première qui servait de support au Quintet Plus. Premier le 17, deuxième le 9, troisième le 15, quatrième le 3 et cinquième le 18. Vous écoutez France Inter, 14h passées de 3 minutes. Tout de suite, c'est 2000 ans d'histoire avec vous, Patrice Juninet.
Merci Hélène et bonjour à tous. Aujourd'hui, les intellectuels.
L'intellectuel est quelqu'un qui se mêle de ce qui ne le regarde pas. Jean-Paul Sartre.
Mille ans d'histoire. Depuis qu'on leur a donné leur nom à la fin du 19e siècle, les intellectuels se sont engagés dans toutes les grandes batailles idéologiques, politiques ou sociales de leur temps. Se mêlant, comme le disait Sartre, de ceux qui ne les regardaient pas, des philosophes ou des écrivains ou des universitaires ont participé à des combats plus ou moins légitimes dans lesquels leurs paroles, aussi bien que leur silence, leur lucidité ou leur aveuglement, leur audace ou leur conformisme ont toujours été commentés par les médias. On les a tour à tour encensés ou stigmatisés et on a même annoncé plusieurs fois leur disparition. Ce serait la fin d'une passion bien française qui a connu ses heures de gloire comme ce jour de 1970 quand le plus emblématique des intellectuels, juché sur un tonneau, allait porter la bonne parole aux ouvriers des usines Renault.
Camarades, je veux témoigner dans la rue parce que je suis un intellectuel et je pense que la liaison du peuple et des intellectuels qui existait au 19e siècle, pas toujours, mais qui a donné de très bons résultats, devrait être retrouvé aujourd'hui. Il y a 50 ans que le peuple et les intellectuels sont séparés. Il faut maintenant qu'ils ne fassent plus qu'un. Non pas pour que les intellectuels donnent des conseils au peuple, mais au contraire, pour que ces masses prennent une forme neuve. Et c'est pourquoi je vous dis, nous nous retrouverons certainement.
François Dos, bonjour.
Bonjour.
Alors c'était Jean-Paul Sartre, bien sûr, devant les usines Renault en 70. Sartre, dont vous parlez bien sûr beaucoup dans votre livre La Marche des Idées, qui vient de sortir aux éditions La Découverte. Un livre dans lequel, justement, vous rappelez cette formule de Sartre qu'on a entendue. L'intellectuel, c'est quelqu'un qui se mêle de ce qui ne le regarde pas. Alors c'est beau, mais c'est un peu court comme définition.
Effectivement, je crois qu'on est devant un obscur objet intellectuel. Et la réponse pour savoir qu'est-ce qu'un intellectuel nécessite de passer par l'historisation, enfin l'histoire des intellectuels. Car en fait, les intellectuels, c'est une construction sociale historiquement différenciée. On aura l'occasion brièvement de le voir. Vous avez des figures qui incarnent l'intellectuel très différentes selon le moment historique où on les prend. Et je dirais que l'intellectuel, il est un petit peu entre deux pôles de définition. Une définition, disons, plus sociologique, fonctionnaliste, bien connue, qui est la division entre travail manuel et travail intellectuel. Seulement, cette division, elle est de moins en moins pertinente parce que, comme l'a très bien vu quelqu'un comme Félix Guattari, il y a de plus en plus d'intellectualité dans le travail manuel avec le développement de la modernité. Donc cette définition, elle est réductrice. Et d'ailleurs, Carlo Ginzburg nous a montré, par exemple, qu'un meunier frioulant comme Menocchio au XVIIe siècle a construit, a bricolé toute une cosmogonie et a fait un travail intellectuel. Alors vous avez ce pôle fonctionnaliste, sociologique, et puis vous avez le pôle de l'engagement qu'on vient d'entendre,
voilà,
Patrick Gélinet, avec Sartre, c'est-à-dire effectivement celui qui est sur le tonneau. Ça, c'est l'image effectivement d'Épinal qui sort de son établi et qui va sur la place publique porter la bonne parole.
François Dosse, si c'est un homme engagé, hein, par définition, un écrivain, un philosophe, etc., comme on dit souvent que l'intellectuel est né avec l'affaire Dreyfus et l'engagement d'Émile Zola, si c'est un homme engagé, on peut dire aussi qu'ils existaient avant Zola. On peut dire que Platon et Socrate, qui se sont mêlés des affaires de la cité, étaient des intellectuels. De même qu'on peut dire que Victor Hugo, avant Zola, était un intellectuel en luttant contre Napoléon III. De même aussi qu'on peut dire, c'est un historien du Moyen-Âge, qui est Jacques Le Goff, qui disait que le premier intellectuel, au fond, c'était Abélard au Moyen-Âge, bien avant Zola.
Tout à fait, vous avez absolument raison. Je pense que, même si le substantif n'apparaît qu'à l'occasion de l'affaire Dreyfus, que les dictionnaires sont absents du terme intellectuel, qui n'est alors que avant la fin du 19e siècle qu'un qualificatif, incontestablement les intellectuels, et Raymond Aron l'indiquait à propos l'histoire des intellectuels, il parlait des scribes. Vous avez effectivement toute l'activité intellectuelle date de l'Antiquité, et elle est historiquement différente.
Je vois, et Voltaire, par exemple, j'ai oublié de mentionner Voltaire quand il défend Calas, c'est un intellectuel.
Voilà,
aussi.
Alors on a sur la définition, il y a une anecdote qui est assez drôle, mais qui est très significative, qui est le moment de la création du CVIA, du Comité de Vigilance Antifasciste, en 1934. Vous avez à Bourges, dans la maison des syndicats, des gens, des intellectuels, c'est un comité d'intellectuels, contre le danger fasciste, contre le danger qui est apparu le 6 février 34, et qui se constituent, qui se mobilisent, et ils se disent, mais oui, mais qui est intellectuel? Où on met la barre? Certificat d'études, baccalauréat, etc. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas mettre une barre de diplôme ou autre à l'intellectuel. L'intellectuel, ils en sont convenus, ils sont arrivés à un consensus qui est le fait que c'est une forme d'engagement dans la cité. On a un petit peu trop tendance en France à le prendre comme un engagement politique au sens strict du terme.
Alors, ce dont on est sûr, en tout cas, François Dosse, c'est que le mot, lui, n'apparaît qu'à la fin du 19e siècle, quand en 1898, dans le journal L'Aurore, Émile Zola s'engageait pour la défense du capitaine Dreyfus contre la hiérarchie militaire qu'il avait accusé d'espionnage.
J'accuse le lieutenant-colonel du Paty de Clam d'avoir été l'ouvrier diabolique de l'erreur judiciaire. J'accuse le général Mercier de s'être rendu complice, tout au moins par faiblesse d'esprit, d'une des plus grandes iniquités du siècle. J'accuse le général Desbois-d'Effre d'avoir eu entre les mains les preuves certaines de l'innocence de Dreyfus et de les avoir étouffées.
J'accuse. Voilà le titre. En caractère d'affiche, sur toute la première page, on tire à 300 000.
Et c'est ainsi que le 13 janvier 1898, donc, paraissait dans l'Aurore le célèbre J'accuse d'Émile Zola, et qu'en même temps que cet article, les Français découvraient un nouveau mot, le mot intellectuel, qu'on retrouve dans tous les journaux de l'époque, la revue de presse Stéphanie Duncan.
Oui, le mot, le terme, les intellectuels naît à ce moment-là, le lendemain du 13 janvier 1998, du J'accuse, alors le lendemain, alors que partout en France, des manifestations, hein, parfois violentes, opposent Dreyfusard et anti-Dreyfusard, le journal L'Aurore publie un nouveau texte intitulé Le Manifeste des intellectuels, justement, ce fameux mot, qui réclame la révision du procès de Dreyfus. Un manifeste signé par Zola, Anatole France, Jules Renard, Marcel Proust, Émile Durkheim, Théodore Monod, Lucien R., Élie Halévy et bien d'autres, hein, dans les jours qui suivent, d'autres signataires les rejoindront. Alors Georges Clémenceau est conscient immédiatement que quelque chose de nouveau se produit. N'est-ce pas un signe, dit-il, tous ces intellectuels venus de tous les coins de l'horizon qui se groupent sur une idée et s'y tiennent inébranlablement? Pour moi, ajoute Clémenceau, j'y voudrais voir l'origine d'un mouvement d'opinion au-dessus de tous les intérêts divers, et c'est dans cette pacifique révolte de l'esprit français que je mettrai, à l'heure où tout nous manque, mes espérances d'avenir. Mais en face, on s'en doute, les anti-Dreyfusards n'apprécient guère. Alors, ce qui est étonnant, hein, c'est que dès le premier jour, l'expression « les intellectuels » a déjà sa force subversive et double, brandie comme un emblème par les uns et au contraire raillée et dénigrée par les autres.
Alors Ferdinand Brunetière, par exemple, directeur de l'influente revue des Deux Mondes, s'indigne. Le seul fait, dit-il, que l'on ait créé ce mot d'intellectuel pour désigner comme une sorte de caste nobiliaire les gens qui vivent dans les laboratoires et les bibliothèques, ce fait seul, dit-il, dénonce un des travers les plus ridicules de notre époque. Je veux dire, la prétention de hausser les écrivains, les savants et les professeurs au rang de surhommes. Alors l'antisémite Édouard Drumont, l'auteur de La France juive, se déchire chaîne aussi contre, je cite, la reconstitution d'une oligarchie immorale et vaniteuse, prétentieuse et grotesque de gradés, de diplômés, d'agrégés, de docteurs. Mais la réaction à chaud la plus violente vient sans doute de l'écrivain nationaliste Maurice Barrès dans un article du journal, hein, un modèle d'anti-intellectualisme, vous allez voir. Ces prétendus intellectuels, écrit-il, sont un déchet fatal dans l'effort tenté par la société pour créer une élite. Ces génies malvenus, ces pauvres esprits empoisonnés méritent une sorte d'indulgente pitié analogue à celle que nous inspirent les cochons d'Inde auxquels les maîtres du laboratoire Pasteur communiquent la rage. Alors, ces malheureux animaux, affirme Maurice Barrès, doivent être abattus ou du moins gardés dans des cages solides.
C'est étonnant, hein, François Doss. Au-delà même de l'affaire Dreyfus, on sent que le mot intellectuel, dès qu'il apparaît, il divise très profondément. Il y a ceux qui, les Dreyfusards qui défendent Dreyfus, qui disent « nous sommes des intellectuels », et puis les autres qui méprisent. Il y a un mouvement anti-intellectualiste assez étonnant, et d'ailleurs assez actuel aussi, hein, un siècle après.
On a effectivement, et les extraits sont parlants, hein, on n'a pas besoin de commentaires, on a un moment de cristallisation historique où effectivement l'affaire Dreyfus va servir de scène primitive, de schème matriciel à deux courants, intellectuel et la tradition anti-intellectuelle. L'intellectuel, et avant même l'affaire Dreyfus, avait dans certains courants une connotation extrêmement négative. Hein. Il y a des extraits extraordinaires sur des anachorètes de l'idée pure, des gens qui sont malades du cœur, qui n'ont pas assez de cœur, pas assez de sentiments, et qui sont donc d'une intellectualité coupée de toute réalité. Cette image-là va traverser effectivement toute une tradition anti-intellectuelle. Cela dit, j'accuse le manifeste des intellectuels et la riposte des anti-Dreyfusards. C'est aussi la prise en compte d'un enjeu qu'on appelle tout de suite le parti intellectuel, et qui même chez les anti-intellectuels va se positionner comme intellectuel, parce que les pétitionnaires anti-Dreyfusards vont chercher eux aussi des professeurs, des gens légitimes, parce que
se proclament eux-mêmes des intellectuels. Siècle, oui.
Et vous avez là effectivement dans la figure de Zola cette figure du 19e siècle où l'intellectuel porte-parole, c'est l'écrivain. Alors avec Victor Hugo, c'est Zola en l'occurrence.
Alors après eux, ça va changer. François Doss, hein, à l'époque de Zola, on se battait pour des valeurs universelles, les droits de l'homme, la justice contre la raison d'État. Puis à partir du début du 20e siècle, les intellectuels vont s'engager dans de nouveaux combats lorsque, entre les deux guerres, certains d'entre eux vont s'enthousiasmer pour la révolution russe et pour le pays, l'Union soviétique, où elle s'est produite. Écoutez, dans les années 30, cet écrivain Paul Vaillant-Couturier, directeur de l'Humanité.
L'URSS est le seul pays où l'abondance ne risque jamais de créer la misère. Mais comment de pareils succès ont-ils été possibles? Grâce à la démocratie ouvrière, expression de la dictature du prolétariat, grâce à l'émulation socialiste, grâce avant tout au parti bolchévique, au parti de Lénine et de Staline. L'URSS montre à tous les peuples en proie aux tortures et au désespoir de la crise la voie du salut, le régime de l'avenir. Défendez l'Union soviétique, l'URSS, c'est la jeunesse du monde.
France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui les intellectuels.
Et c'était une chanson du Parti communiste de l'entre-deux-guerres, Parti communiste dans lequel Paul Vaillant-Couturier, qu'on a entendu, avait adhéré. Alors ça, c'était à l'époque de la Russie stalinienne. Beaucoup d'intellectuels étaient favorables à l'engagement derrière la révolution russe. D'autres, en revanche, étaient très hostiles. Et parmi eux, un homme dont vous parlez, mais dont on parle plus beaucoup aujourd'hui, qui est un ancien défenseur de Dreyfus, Julien Binda, qui écrivait dans La trahison des clercs, clair cette phrase extraordinaire, parce que c'est en 1927 qu'il écrit ça. Notre siècle, et on est au début du siècle, hein, notre siècle aura été profondément le siècle de l'organisation intellectuelle des haines politiques. Et il annonce tous les combats intellectuels, au fond, qui vont se dérouler par la suite, déjà, François Doss.
Oui, Benda est quelqu'un de tout à fait important dans la réflexion sur les intellectuels et sur leur histoire, avec cette publication 1927 de la trahison des clercs. Il est considéré, il les stigmatise comme trahissant finalement un certain nombre d'idéaux, c'est-à-dire que pour lui, effectivement, il y a une espèce de d'épure intellectuelle qui ne doit pas s'abaisser à des conflits partidaires. Hein. Et donc, à partir de là, effectivement, il plaide pour une espèce de retrait total, hein, de l'intellectuel par rapport aux enjeux qu'il traverse. Et on vient d'entendre ce qui m'a frappé dans la citation de Paul Vaillant-Couturier, c'est le régime de salut, c'est-à-dire cette espèce de transfert de sacralité et évidemment la notion de clerc nous invite à penser ce transfert de sacralité des clercs, du clergé, vers cette figure de l'intellectuel qui accompagne un régime qui se veut un régime eschatologique, qui est là la révolution russe avec ses espérances qui nous apparaissent évidemment aujourd'hui surannées du début du siècle.
Alors il y a aussi d'autres combats, hein, qui vont apparaître à partir des années 20, c'est la montée du fascisme, c'est la création en France en 34, vous l'avez dit François Doss, du comité de vigilance des intellectuels antifascistes, et puis aussi du côté justement du fascisme, l'engagement d'un certain nombre d'intellectuels comme Brasillac, comme Pierre Drieu-La Rochelle, qui ira jusqu'à la collaboration et à ce fameux voyage à Weimar en 1941, alors que leur pays était occupé par les nazis.
À Weimar, la foire du livre de guerre allemand rassemble les poètes de langue allemande, dont une centaine est au front. La présence d'auteurs célèbres de 14 pays d'Europe confère à cette rencontre un sens particulier.
Nous avons revu cette très rare et très charmante ville de Weimar. Nous avons reçu un accueil simple et libéral. Il n'était guère question de politique. Les artistes comme les savants ont le privilège d'ignorer, ou plutôt n'exagérons pas, de feindre d'ignorer l'énormité formidable des événements qui se déploient autour d'eux.
C'était Pierre Drieu-La Rochelle à son retour de Weimar en 41. François Doss, c'est quand même assez extraordinaire, parce que là, c'est pas l'engagement, c'est le dégagement, c'est la politique de l'autruche. Il va à Weimar, c'est un grand écrivain français qui est pro-allemand, qui est en tout cas qui a collaboré comme Brasillac, il voit rien.
Il voit rien, non, moi, à mon
c'est ce
avis.
Qu'il dit, en tout cas.
C'est ce qu'il dit.
En tout cas,
oui,
il
ne
préconise
mais...
pas l'engagement. C'est moins qu'on puisse dire.
Céline dira aussi plus tard qu'il a rien vu, qu'il était non violent. Non, je pense qu'il y a là ce que Paul Iakov a appelé le bréviaire de la haine, hein, dans tous ces écrivains intellectuels que sont effectivement Brasillac, Drieu et les autres. Je vous rappelle quand même que après avoir longtemps hésité, avoir cherché aux extrêmes une solution à son propre malaise, puisqu'on sait aujourd'hui que Drieu La Rochelle a failli se suicider, a fait une première tentative de suicide à 7 ans, et qu'il finira par se suicider
oui.
À la fin de la guerre, et qu'il a quand même opté dès 36 pour ce magnifique parti fasciste nazi, qui est celui de Drieu, hein, qui est le PPF. Donc, il prêche pas là le désengagement, il est absolument émerveillé par Weimar, comme il était juste avant-guerre, émerveillé par Dachau, où il a fait une excursion aussi, et où il est ressorti en étant enchanté de l'admirable confort qui régnait à Dachau.
Alors en tout cas, après la guerre, évidemment, on n'en parlera plus beaucoup de Brasillac qui a été, lui, fusillé, Drieu qui s'est suicidé, on parlera même plus beaucoup d'ailleurs d'intellectuels de droite, l'heure est plutôt, pour la plupart d'entre eux, à l'engagement derrière la Russie. Stalinienne, toujours comme Vaillant-Couturier entre les deux guerres, on ne voit toujours pas là non plus ce qui s'y passe.
Bien sûr,
François Doss.
Bien sûr,
les intellectuels, presque tous de gauche,
non, là, il y a un
compagnon de route.
Un aveuglement, dont Sartre d'ailleurs est un exemple paradigmatique, un aveuglement total, effectivement, sur ce qui se passe à l'Est et dans l'après-guerre. Mmh. C'est vrai que l'après-guerre a éliminé totalement toute la tradition intellectuelle d'extrême droite, et pour cause, qui s'est totalement discrédité. Mais le XXe siècle s'est poursuivi par, là encore, une cécité assez complète.
Hein, alors, un aveuglement qui n'est pas partagé par tout le monde, il y a quelques exceptions, comme par exemple Raymond Aron, qui se sépare de Sartre en 1947. On l'écoute justement 30 ans plus tard raconter les raisons de leur rupture.
Ce qui a fait la violence de la rupture, c'est que Sartre s'est laissé entraîner au compagnonnage avec le Parti communiste par un mécanisme intellectuel que je comprends. Il déteste tellement la société bourgeoise et il n'a pas vu que la société soviétique comportait toutes les tares de la société bourgeoise, plus un certain nombre de tares supplémentaires. Alors, à partir d'une révolte fondamentale contre la société bourgeoise, il a glissé au compagnonnage avec le Parti communiste, et il l'a fait à l'époque du stalinisme, ce que je trouvais absurde, j'allais dire monstrueux, mais non, n'employons pas de grands mots, disons que c'était déraisonnable.
Déraisonnable, le mot est un peu faible, hein, François Dosse, même si Raymond Aron est gentil finalement avec ça, en disant par exemple déraisonnable.
Oui, absolument. Hein?
Alors, leur rupture, c'est quand même la grande figure de l'intellectuel qui n'est pas de gauche, c'était Raymond Aron entre les deux guerres, et leur débat au fond, après la guerre plutôt, et leur débat, il a vraiment animé...
Il a animé tout le siècle, hein. C'est d'ailleurs une histoire que raconte Jean-François Sirinelli, en mettant en rapport ces deux normalités. Né autour de 1905, se retrouvant en Cagne. Non, on a là une unité générationnelle, une unité de formation, et puis de pôle politique. Mais ce qui les relie, c'est la présence à leur temps. Hein, ce prurit de l'engagement, parce que s'il y a compagnonnage du côté du Parti communiste de Sarthe, il y a aussi compagnonnage de Raymond Aron du côté du Figaro. Et une cécité totale, vous me direz moins grave, d'Aron devant ce qui s'est passé en mai 68 en France.
François Dosse, depuis le début, nous ne parlons que d'intellectuels français comme s'il s'agissait d'exceptions françaises. Dans votre livre, d'ailleurs, vous rappelez que c'est vrai qu'au fond, on s'est souvent demandé est-ce qu'il y a des intellectuels en dehors de l'Hexagone.
Tout à fait. Cette notion fait rire, par exemple, nos amis britanniques. On ne peut pas parler d'intellectuels en Angleterre sans rigoler. C'est presque une insulte. C'est quelque chose qui est renvoyé au terroir franco-français. Je me suis interrogé, effectivement, en comparant un petit peu les cadres nationaux. J'étais parti d'hypothèse d'une exceptionnalité française, parce que tout le monde regarde effectivement la grande tradition intellectuelle française, dont vous avez rappelé les noms de Zola, de Voltaire, etc., et de Sartre ou Foucault, mais finalement, y regarder de plus près, l'hypothèse que je ferais, c'est celle d'une opposition, il faudrait développer, mais entre les pays latins, et plutôt de culture catholique, et les pays de culture protestante. Mmh. Et il y a là effectivement, et aussi bien dans le monde germanique que dans le monde anglo-saxon, une existence de l'intellectuel tel qu'on le conçoit dans les pays catholiques. Alors cela tient, et ça nécessiterait évidemment des développements, à cette notion de clerc, justement, de transfert de sacralité. Doit-on transférer cette sacralité sur la figure de l'intellectuel, lors même qu'on a peut-être une espèce de religion politique plus réussie, plus pacifiée dans le monde anglo-saxon.
Et autour du principal, du plus connu d'entre eux, l'emblème au fond de tous les combats intellectuels après la guerre contre la guerre d'Indochine, contre la guerre d'Algérie, et puis à partir de 64, contre la guerre du Vietnam, on écoute à nouveau Jean-Paul Sartre en 1966.
Les Vietnamiens combattent aujourd'hui pour nous tous. Toutes les forces démocratiques et progressistes dans le monde entier doivent s'unir pour faire face et pour abattre le gendarme démesuré et arrogant du monde dit par euphémisme libre. C'est au Vietnam que se joue actuellement notre sort, notre possibilité de ne pas être ni exploité, ni aliéné.
C'était Jean-Paul Sartre, donc en 66. Jean-Paul Sartre, après la mort duquel en 1980, François Dosse, on a souvent annoncé la mort des intellectuels. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de cause à défendre depuis que le mur de Berlin est tombé, que l'URSS a disparu. Ou est-ce que, tout simplement, parce qu'ils se sont beaucoup trompés, vous nous l'avez dit?
Alors je voudrais rassurer les auditeurs, il n'y a pas plus de fin de l'intellectuel que de fin de l'histoire.
Vous êtes en désespoir.
Heureusement pour votre émission d'ailleurs. Mais l'histoire continue. Et les intellectuels aussi. Bien sûr, leur figure a tendance à se transformer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus réticent à toute figure de surplomb, de donneur de leçons, y compris de va-t-en-guerre, qui serait effectivement des épigones de ces erreurs.
Hein, parce que vous faites je suppose que vous faites allusion, c'est ce qui surprend le plus, c'est de voir d'anciens maoïstes très engagés contre la guerre du Vietnam derrière les États-Unis aujourd'hui, dans la guerre en Irak, par exemple.
Absolument, absolument. Surtout quand on a des souvenirs, comme moi, d'anciens étudiants du centre expérimental de Vincennes, ou le même, Glucksmann, pour pas le nommer, vidait les amphithéâtres, et les amphithéâtres, y compris où l'enseignant était Henri Weber, dirigeant de la Ligue communiste révolutionnaire. Donc, effectivement, des leçons de démocratie, il apprête à sourire. Mais plus sérieusement, derrière ces figures d'intellectuels médiatiques, hein, dont certains font un bon travail, je pense à Bernard-Henri Lévy, vous avez des intellectuels qui me semblent aujourd'hui animer le débat et la fonction de l'intellectuel aujourd'hui. Je le vois plus dans des figures comme celle d'Olivier Mongin, de Pierre Nora, de Marcel Gaucher, ou de philosophes comme Paul Ricoeur, c'est-à-dire des gens qui aide à éclairer le débat public, mener ce travail pédagogique entre l'opinion et le savoir, et à transmettre et à traduire finalement un savoir qui est de plus en plus complexe, et des choix qui sont de moins en moins entre le noir et le blanc, qui sont de moins en moins des choix manichéens, et qui sont de plus en plus, comme le dit magnifiquement Paul Ricoeur, entre le gris et le gris. Sauf que pour choisir entre le gris et le gris, ce dont les citoyens sont appelés à choisir, et en dernière instance c'est à eux qu'incombe le choix, les intellectuels sont là pour donc éclairer les choix. Et donc là, l'idée des lumières, l'idée d'un savoir, qui conduit vers un jugement prudentiel, c'est une fonction, une belle fonction des intellectuels aujourd'hui. Et c'est une fonction qui ne se réduit pas aux politiques au sens classique du terme de prise de position, d'activité pétitionnaire. C'est une activité qui passe par, comme le dit Olivier Mongin, par la traversée des ateliers de la raison pratique, c'est-à-dire là où se fait le savoir de notre société, là où sont les enjeux de notre présent.
Merci François Doss. Je rappelle que vous êtes donc l'auteur de La Marche des idées, histoire des intellectuels et histoire intellectuelle, publiée aux éditions de La Découverte. Et vous êtes également l'auteur d'une biographie de Michel de Certeau, publiée l'année dernière chez le même éditeur. À lire également l'excellent dictionnaire des intellectuels français de Jacques Julliard et Michel Vinoc, qui a été publié au Seuil. Enfin, Le conseiller du prince, de Machiavel à nos jours, de Robert Damien, qui vient de paraître aux presses universitaires de France. Vous avez pu entendre un extrait du téléfilm de Stelio Lorenzi, Émile Zola ou La conscience humaine. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute, ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. Et puis deux mots d'excuse de la part de notre invité d'hier, qui a attribué à Ricardo la célèbre théorie d'Adam Smith sur la main invisible, une erreur qu'ont rectifié d'eux-mêmes beaucoup d'auditeurs vigilants de notre émission. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Patrick Henry et Gaspard Benoît, documentation Virginie Bloch-Lenné et Claire Tesser, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
Une émission de Patrice Gélinet.
Demain dans 2000 ans d'histoire, un poète, l'auteur de La Belle et la Bête et des Enfants.